France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver, les carnets de campagne toujours en Aveyron. On s'intéresse aujourd'hui à un village de 800 âmes qui prouve que l'exode rural n'est pas une fatalité. Dans cette petite commune, tout a été fait pour que les gens restent et même pour attirer de nouvelles familles. Dans un vaste lieu, un tiers-lieu, se regroupent des entreprises d'informatique, des coopératives agricoles et maintenant un centre de formation. Arvieux se veut un laboratoire de résilience et même une Silicon Valley rurale. Ensuite, on passera un coup de fil à Cap-de-Nac-Gare, de l'autre côté du département, tout à l'ouest, pour découvrir une formidable initiative de l'art à domicile, pour les personnes âgées notamment. Une parenthèse, un instant suspendu, une rencontre, non pas pour se soigner, mais pour s'échapper. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Quand j'ai annoncé que nous allions nous intéresser à l'Aveyron, nous avons reçu plusieurs messages pour signaler le jardin d'Arvieux, tiers-lieu incontournable donc, situé dans un village de 800 habitants. Arvieux est à 30 km de Rodez, tout près du lac de Parloux. Bonjour Vincent Benoît.
Bonjour.
Vous êtes l'un des cofondateurs du jardin d'Arvieux. Alors sans doute faut-il commencer par une liste. Dans cet endroit, on trouve des espaces de coworking, une pépinière d'entreprise, une médiathèque, une salle de spectacle. Est-ce que j'en oublie ?
Comme vous dites, on a un espace de coworking qui est géré par une entreprise privée, la ETIF. Et dans ce même lieu, on trouve un espace public, une médiathèque cyberbase, qui est aussi une maison de service qui est gérée par la commune. Ils se partagent des choses, en fait, un bien commun, un peu une place de village au XXIe siècle, c'est-à-dire une salle de spectacle de 120 places, un parc et aussi des salles de réunion. Et ils se partagent aussi deux réseaux, puisqu'on a choisi en 2015 de transformer tout ce lieu avec un réseau chaleur-bois. Donc, tous les bâtiments sont chauffés avec un réseau chaleur-bois et une connexion Internet très haut débit. Voilà.
Tout ça dans un village de 800 habitants, c'est assez impressionnant.
Ça fait très longtemps que le village essaie de construire sa vie, parce qu'en fait, ce qui est compris dans le village d'Arvieux, quand on est à 800 mètres d'altitude, qu'on est un village rural isolé, y a une question qui se pose, c'est comment avoir une vie épanouissante pour tous, qu'on soit jeune ou vieux. Et en 2015, en fait, on avait tous conscience au village que soit on crée notre vie ici, avec un minimum d'autonomie, soit c'était mourir. Et ce village, en fait, peut-être un peu plus qu'ailleurs, a compris que la prospérité de l'autre, c'était aussi la sienne, quoi, en fait. Et si l'épicier fonctionne bien, il y a plus de services. S'il y a plus de services, il y a plus d'écoles. S'il y a plus d'écoles, il y a des infirmières qui travaillent sur place. S'il y a des infirmières qui travaillent sur place, il y a aussi un sentiment de sécurité plus grand pour les personnes âgées, etc. Il fallait rester attractif pour maintenir les populations ou en attirer de nouvelles.
J'ai lu quelque part qu'on trouvait aussi une coopérative de lait de brebis bio.
Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce tiers-lieu ? Il y a pas mal d'entreprises, il y a à peu près 30 personnes qui travaillent maintenant. Il y a une entreprise informatique de 20 personnes, l'ITIS, qui est implantée depuis 20 ans.
Ça, c'est la vôtre, d'ailleurs. L'ITIS, c'est vous qui l'avez créé.
Voilà, je suis cohérent. Aveyron Brebis Bio, c'est une coopérative de 35 fermes de lait de brebis bio. Donc, c'est quand même 15% du lait de brebis bio en France, donc c'est pas mal. Il y a aussi les Locomotivés, c'est une association de circuits courts, en fait. C'est une association qui livre à peu près 200 paniers par semaine de produits locaux dans les zones environnantes, en fait. Et on a aussi pas mal d'indépendants. Et en ce moment, en plus, on a 3 entreprises qui sont en train de se créer. Voilà. On avait ce rêve d'être une petite Silicon Valley rurale, à la fois agricole et digitale. Et si vous voulez, les tiers-lieux, c'est super, mais souvent, on pense que les lieux et pas l'animation. C'est comme si vous aviez un bol pour faire votre mayonnaise, que vous mettez les ingrédients dedans, mais qu'il n'y a personne pour mélanger. Et mélanger, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de talent aussi. Il faut avoir. Ça ne se décrète pas. Donc souvent, les tiers-lieux ne sont que des lieux, et en réalité, il faut penser l'animation. Et on a une cafette partagée au rez-de-chaussée. Mais c'est là où le monde du travail rencontre le monde des loisirs, c'est là où le monde du travail rencontre les personnes qui sont en résidence artistique. Et ces mélanges incongrus créent parfois de nouvelles idées ou de nouveaux produits dans certains cas. Donc c'est quelque chose qui se pense en fait. Comment on mélange la diversité avec talent, et quand vous mélangez ça, vous savez pas ce que ça va donner. Mais s'il y a du plaisir et de la convivialité, vous êtes sûr que ça va donner quelque chose. Et donc, moi, en tant que Vincent, le côté magique, c'est de voir des choses que je ne pouvais pas imaginer alors que j'étais co-concepteur du lieu, quoi.
Alors, vous avez à présent un projet de château, rien que ça.
Alors, il se trouve que quand on a ouvert le tiers-lieu en septembre 2019, on commence à avoir un problème. C'est qu'on avait plus de porteurs de projets que d'hébergement. Ah. Et un porteur de projet arrivait avec un super projet qui était aussi un peu le nôtre au tout début, c'était de dire ce lieu, il sera équilibré économiquement que si on attire des séminaires et des formations. Et un porteur de projet est arrivé avec l'idée de faire une sorte d'école de la transition écologique et sociale. Et quand il a vu le château qui était alors en vente, il a dit que ce lieu est idéal. Et l'idéal, c'est qu'il y a 300 mètres du tiers-lieu à pied, alors qu'il est isolé parce qu'il est entouré d'arbres. Donc on a l'impression d'être vraiment chez soi dans son cocon avec un hectare, mais à la fois on est à 300 mètres à pied. Donc on a réussi à créer un lieu de vie où il y a tout le lieu de vie, le travail, l'hébergement, l'hyperconnexion ou la déconnexion, mais tout à pied. Donc en fait, on a résolu le problème de la mobilité rurale en ayant l'idée qu'on n'a plus besoin de se déplacer, en fait, puisqu'on a réussi à avoir à peu près tout sur place. Voilà.
Et c'est la vie de château.
Donc, voilà. Et c'est la vie de château. On peut dire, voilà, donc, et ce château, c'est quoi? Ben, c'est un lieu, en fait, qui maintenant accueille trois nouveaux arrivants, quand même, qui peut accueillir en plus jusqu'à 15 personnes, des groupes, en fait, qui viennent en formation, et qui, en plus, est en train de voir émerger un petit éco-hameau de deux habitats. Voilà. C'est le projet du moment, en fait. Ben, c'est finir par devenir vraiment une sorte de centre de formation et d'expérimentation de la résilience dans des communautés à taille humaine comme les villages. Quoi, voilà, en fait.
Est-ce que vous êtes fier dans cette Silicon Valley rurale de montrer l'exemple, de défricher, d'expérimenter?
Alors fier, satisfait, je dirais oui. Fier, c'est tellement dur de réussir tout ça que faut rester très humble. Mais par contre, d'être entouré de personnes aussi bien intégrées et aussi créatives, ben oui, pour moi, en tout cas pour moi, Vincent, c'est réjouissant. Et c'était mon rêve il y a 20 ans, en fait. C'était d'habiter un peu à la campagne et quand même d'y voir le monde entier passer. Donc, pour moi, c'est, ben oui, c'est super, quoi. Voilà. Donc, si j'avais une fierté, c'est d'abord celle-là.
Merci beaucoup, Vincent Benoît. Toutes les infos sur ce jardin d'Arvieux sont à la page des carnets de campagne sur le site de France Inter. Merci à vous, bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et j'ajoute que le Jardin d'Arvieux est à la recherche de services civiques. Avis donc à celles et ceux qui voudraient travailler dans ce village ô combien dynamique de l'Aveyron.
France Inter. Carnet de campagne.
Allons voir les jolies choses qui se trament derrière le hublot. C'est le nom d'une association basée à Cap-de-Nac-Gare, commune aveyronnaise située tout près du Lot. Derrière le hublot organise des spectacles, des festivals. C'est une scène qui invente un projet culturel sur mesure pour ce territoire rural et qui développe en ce moment un projet qui a attiré notre attention, un service d'art à domicile. Bonjour Fred Sancerre.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Derrière le Hublot. Alors l'idée, c'est de faire venir l'art à domicile chez des personnes âgées, malades ou dépendantes. Comment est née cette idée?
Alors cette idée, elle est née d'une expérience toute simple. C'est que, comme tout le monde, on a vécu une période d'isolement, finalement, avec la période de crise sanitaire et le premier confinement lié au Covid. On s'est retrouvés isolés. Isolés et coupés des langages symboliques de la poésie, de la possibilité de voir des artistes, etc. Ça, c'était le premier élément. Et le second, c'est que depuis très longtemps, et habitant un territoire rural, on avait compris qu'il se passait quelque chose d'un peu particulier. Des personnes étaient isolées par force, finalement, chez elles, puisqu'elles n'avaient plus la capacité de se mouvoir librement, etc. Donc, un certain nombre de personnes âgées, de personnes ayant des handicaps, etc. Et puis qu'à côté d'elles, d'autres personnes circulaient toute la journée, avec des plannings un peu dingues, parfois, pour aller finalement faire de premiers soins, faire du ménage, accompagner ces personnes-là. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose, certainement, qu'il fallait aller voir de ce côté, du côté de ces réalités, en tout cas, qui sont partout en territoire rural. Voilà.
Alors, comment ça se passe, très concrètement, cet art à domicile?
Alors, ça se passe avec des artistes. Alors, c'est pas des spectacles à domicile, comme on peut en voir, hein, mais c'est vraiment une rencontre qui est permise avec une personne qui est chez elle et qui est finalement mise à la vie par les personnes qui sont censées lui délivrer des soins et puis l'accompagner finalement depuis le réveil jusqu'au petit déjeuner, sa toilette du jour, etc. Ce sont ces auxiliaires de vie qui sont absolument indispensables à la qualité de vie sur ces territoires-là. Et finalement, l'artiste arrive à ce moment précis de la journée pour rentrer d'abord en discussion avec la personne isolée, puis au bout d'un moment, délivrer une forme de petite performance artistique. Il peut s'agir de musique, de performance théâtrale, dramatique, etc. Mais aussi de moments de poésie, de moments autour du corps et de danse. De se faire tirer le portrait aussi, c'est pas anodin, de se faire tirer le portrait, de poser, éventuellement un peu costumé, un peu grimé. C'est jouer avec les personnes qui sont à domicile, c'est se donner la possibilité de continuer à les émouvoir, qui est une forme de parenthèse dans le quotidien, qui est une échappée en tout cas, c'est leur permettre de s'échapper avec les langages symboliques et les artistes.
On entend parfois parler d'art, thérapie, Fred Sancerre, mais je crois que c'est pas votre ambition. Là, il s'agit pas de soigner par l'art.
Non, il s'agit pas de soigner. Moi, je n'aurais pas cette prétention ni de savoir soigner. Au mieux, on peut participer à augmenter un peu la vie, c'est-à-dire à la réveiller, à créer des moments d'étonnement qui peuvent permettre aux gens de se trouver mieux. Les artistes, ils sont là pour réveiller, pour étonner. Et donc, on n'est pas dans la question de l'art-thérapie. Après, on sait aussi que quand ça se passe, les personnes en sortent mieux que l'instant moment. Donc, c'est aussi très riche et on sait bien ce que ça peut produire. Mais en tout cas, c'est pas notre rôle premier, je crois.
Ce projet est tout jeune, hein, mais vous avez déjà fait les premières visites d'artistes. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est jamais passé comme prévu. Ce qui est quand même quelque chose de formidable, hein, qui est pas anodin, mais... On s'aperçoit parfois qu'il faut revenir plusieurs fois chez la personne avant que le moment de la performance soit possible. Parce que ces personnes-là, qui parfois passent la plupart du temps dans leur journée seules, à des moments, elles ont juste besoin de quelqu'un pour parler, pour être là, pour discuter. Hein. C'est pas, elles n'ont rien parfois à confier de fondamental, mais être dans une discussion. Et du coup, de temps en temps, on s'est aperçu qu'il fallait passer d'abord ce temps-là, avant finalement que l'artiste puisse dire ce qu'il avait à dire. Donc quand je dis que ça se passe jamais comme prévu, ben aussi on fabrique et on fait avec ce que sont les gens. Et parfois on tombe sur des moments de vie qui sont pas les bons. Ça nous est arrivé de chercher une dame dans un village parce qu'elle était partie se promener, qu'elle avait Alzheimer et qu'elle s'était perdue. Donc quand je dis que ça se passe pas toujours comme prévu, c'est ça. Mais c'est des moments de vie en fait. Ce qu'on partage là, c'est des moments de vie très intenses et sur lesquels les artistes ont des choses à dire et peuvent accompagner, quoi.
Tous les domaines, hein, artistiques sont convoqués. Lequel fonctionne le mieux, si j'ose dire ?
Je crois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, c'est dès lors que l'échange est possible. Dès lors qu'il y a quelque chose qui naît entre les trois, finalement, entre l'artiste, l'auxiliaire de vie et la personne chez qui nous sommes. Et quand quelque chose se passe, c'est quand les personnes ne sont pas seulement spectatrices de ce moment-là. C'est pour ça que je parlais de quand quelqu'un se fait tirer le portrait, qu'il soit dessiné ou photographié, quand il y a quelque chose de l'ordre du geste et de forme peut-être chorégraphique qui se met en place, etc. Là, il se passe quelque chose qui nécessite que la personne devienne un peu actrice du moment. Et là, finalement, c'est quelque chose de très fort qui se passe parce que ça déplace aussi l'artiste et ça déplace la personne qui, du coup, devient une part de ce qui s'est passé et du coup, elle est chargée émotionnellement de ce moment-là. Donc moi, j'ai l'impression que c'est dans ces moments où l'expérience est rendue possible, en tout cas.
L'ambition, finalement, c'est d'essaimer, hein, d'exporter cette très belle idée bien au-delà de Capdenac et même de l'Aveyron.
Ah oui, 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 très clairement, c'est de transmettre à d'autres. Voilà, donc ça prendra du temps, puisque je pense qu'il est nécessaire dans des projets comme ça de pas brusquer, de prendre le temps de faire les choses, de faire la preuve que ça fonctionne. Là, l'idée pour nous, c'est pas de faire un coup, c'est de créer un nouveau service qui permette aux artistes de travailler et aux habitants de se trouver des instants de poésie et d'art.
Et on trouvera un lien vers le site de Derrière le Hublot à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup, Fred Sancerre.
Merci beaucoup. Longue vie, carnet de campagne, merci.
La boîte mail d'ailleurs des carnets de campagne, je le rappelle, attend les messages des auditeurs et auditrices pour signaler des initiatives en Aveyron, mais aussi en Moselle et dans les Ardennes. C'est notre terrain de jeu des semaines à venir.